France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
États-Unis, Canada, troubles de voisinage. En 1775, à la veille de la déclaration d'indépendance des États-Unis, l'Amérique du Nord est marquée par une forte présence anglaise. Les 13 colonies qui, elles, vont se constituer en États-Unis d'Amérique et le Canada qui, lui, demeure fidèle à la couronne britannique. Mais pourquoi ? Voilà de quoi causer des tensions et même des guerres. Pourquoi la colonie anglaise du Canada n'a-t-elle pas rejoint le mouvement d'indépendance lancé par leurs voisins ?
On me demande souvent pourquoi les Canadiens ont prouvé leur fidélité au roi d'Angleterre. Et à chaque fois, je réponds que c'était notre devoir de le faire.
Sans compter que les Yankees s'accaparaient volontiers de nos belles terres des townships, alors que nos seigneuries étaient bondées.
Le cours de l'histoire.
Nous avions le choix entre des révolutionnaires qui rejetaient l'ordre et l'autorité établie, et notre bon souverain, qui nous permettait l'usage du français, la liberté religieuse et la liberté de nous gouverner nous-mêmes. Avions-nous vraiment le choix ?
Une fiction radiophonique pour commencer cette émission sur les relations entre les États-Unis et le Canada. Adeline Vasquez-Parra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation nord-américaine à l'Université Lumière Lyon 2. Vous êtes l'autrice de l'histoire du Québec, des origines à nos jours, c'est chez Talendier. Et Laurence Crosse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études canadiennes à l'Université Paris-Cité, avec ici cette réflexion que nous avons dès le début sur la situation de l'Amérique du Nord, avant même que tout cela débute. Si nous nous mettons en 1775 devant une carte et nous la regardons, c'est vrai que les Britanniques sont très présents en Amérique du Nord, hein. Adeline Vasquez-Parra.
Alors, ils sont très présents et surtout, ce qu'il y a, c'est que dans la vallée du Saint-Laurent, il y a cette population donc francophone, catholique, qui n'a rien à voir avec cette population anglophone. Et effectivement, comme ça a été dit, cette population essaie justement de gagner un petit peu de marge de manœuvre puisqu'elle est sous régime britannique depuis peu de temps, depuis 1763, depuis la fin de la guerre de 7 ans, qui a opposé les Anglais aux Français, aux Amériques.
Et nous avons perdu en 1763 notre Canada. C'est vrai que les populations, malgré tout, sont là. Si l'on veut faire un panorama, donc j'entends bien ici qu'il y a une colonie anglaise au Canada. À partir de 1763, on y ajoute des populations françaises. C'était l'ancienne colonie française. Il y a sur le littoral atlantique les 13 colonies qui vont donner les États-Unis. Il y a beaucoup d'autres gens à évoquer. La place des Français en Louisiane aussi, parce que ça, c'est quelque chose. On disposait de la Louisiane. On en est où à ce moment-là? On n'est plus tellement présent en Louisiane?
Alors, sur la Louisiane, la Louisiane a été récupérée par l'Espagne après la guerre de 7 ans. Donc, en fait, il y a quand même des populations toujours francophones en Louisiane, bien sûr. Mais normalement, la Louisiane a été récupérée par l'Espagne, donc ne fait plus partie ni de l'Empire français, ni de l'Empire britannique. Voilà, on peut un petit peu oublier la Louisiane. Les populations françaises qui restent sous mandat donc britannique à partir de 1767 sont celles de la vallée du Saint-Laurent, donc la province du Québec, qui c'est comme ça que ça s'appelle à l'époque. Elle va beaucoup changer de nom, en fait, cette province ensuite dans les années qui vont venir. Et il y a l'Acadie également sur la côte atlantique qui, elle, est anglaise depuis plus longtemps, puisque depuis le traité du Utrecht
de 1713.
Voilà.
Avec ici, on l'entend bien, une place de la France qui a tendance vraiment à reculer dans les années qui nous intéressent. Donc des Espagnols, des Anglais, des populations. Et puis on peut quand même dès le début évoquer les populations autochtones, parce que là aussi ça va nous permettre de comprendre tous ces mouvements-là. Qu'en est-il des populations autochtones? On imagine souvent des oppositions, il y a surtout beaucoup de contacts et déjà des alliances. Hein.
Tout à fait, et en fait ces populations autochtones qui vivent dans la région des Grands Lacs font désormais partie de la province de Québec, donc la province de Québec qui se met en place en 1763. Et effectivement, il va falloir jouer un petit peu pour le régime britannique avec toutes ces populations qui sont très diverses. Donc ces populations autochtones qui sont d'origine iroquoise, qui se connaissent bien, qui ont fondé des alliances militaires depuis le XVIIe siècle. Et les Britanniques vont devoir composer avec finalement à la fois des autochtones, des Français et puis des Écossais qui arrivent petit à petit dans cette province de Québec. Donc tout l'enjeu est vraiment de faire cohabiter ces populations populations entre elles. Et effectivement, au moment où arrive cette première lettre du Congrès continental en 1774, il y a cette problématique de savoir si on peut changer de régime complètement, hein, et si, effectivement, toutes ces populations entre elles peuvent rejoindre la Révolution américaine.
Laurence Cross.
Oui, sachant qu'en fait, ces populations autochtones qui sont un peu plus, donc qui sont à l'ouest des Appalaches, hein, donc la vallée de l'Ohio, en remontant jusqu'au Grand Lac, sont sur un territoire que le Royaume-Uni, que la Grande-Bretagne a décidé de préserver d'une colonisation. Donc juste après, en 1767, tout ce territoire, ça s'appelle le territoire indien, et les 13 colonies, en théorie, n'ont pas le droit de laisser partir des colons sur ce territoire. Ce qui est un gros problème parce que beaucoup des guerres coloniales avant la guerre de 7 ans, justement, avaient été déclenchées par le désir de ces colons américains de la côte de s'étendre vers l'ouest, au-delà des Appalaches, dans des territoires qui étaient normalement sous mandat français, mais en fait pas occupés du tout par les Français, occupés par des peuples autochtones, qui avait des alliances avec la France. Donc ça, c'est une espèce de pomme de discorde entre les colons américains et la couronne britannique. Et pomme de discorde qui va être exacerbée par l'acte du Québec de 1774, qui remet le territoire indien dans la province du Québec. Et ça, les Américains considèrent, et d'ailleurs c'est une des lois qu'ils appellent les lois intolérables, et qui vont être mentionnés dans la déclaration d'indépendance.
Voilà, c'est ces 13 colonies qui ne supportent pas de se voir privées de potentiels territoires à coloniser. Cet acte du Québec, donc qui associe le Québec à ces territoires indiens. Vous nous avez évoqué une lettre du Congrès continental en 1774, donc c'est la même année. De quoi s'agit-il ?
En fait, c'est une lettre qu'un comité du Congrès adresse aux habitants de cette province de Québec pour qu'ils rejoignent la révolte qui a eu lieu déjà l'année précédente avec la Boston Tea Party, donc la révolte du thé qu'on connaît bien. Et ils désirent véritablement propager les idées de la Révolution, notamment un régime représentatif, puisque avec l'acte de Québec, comme l'a dit Laurence, effectivement, il y a ces territoires qui ont été gagnés, mais les populations n'ont toujours pas de régime représentatif. Le gouverneur est seul, avec ses conseils et ses conseillers, à gouverner en fait cette province. Donc, les Américains, hein, ou alors ce qu'on peut appeler les Américains, essaient justement de convaincre ces populations finalement, avoir une chambre d'assemblée, et puis de se gouverner eux-mêmes et de rejoindre donc cette révolte qui commence à germer.
Bah c'est logique hein, d'ailleurs quand on y pense, hein, parce qu'on a 13 colonies qui se révoltent pour obtenir leur indépendance et il y a les petits copains qui sont également sous domination britannique, donc ils se disent on va faire la même chose, mais vous Laurence Cross, vous me faites non avec le
non,
doigt.
Non, en fait, c'est pas du tout logique parce que on part de contexte historique complètement différent.
Et oui, c'est ça. Hein,
parce que les colonies anglaises, enfin américaines, elles étaient sous le régime de l'Empire britannique, donc avec déjà une tradition de représentation locale avec des assemblées élues. Tout le problème de la révolution d'indépendance, c'est l'idée que ce sont les assemblées élues locales qui doivent décider des impôts et pas le Parlement britannique central. Alors que la province du Québec, ils viennent d'une tradition complètement différente, celle de l'Empire français, où il n'y a jamais eu d'assemblée élue. Alors effectivement, en 1763, quand le Royaume-Uni reprend le contrôle des colonies françaises, il y a tout un programme disant que finalement, on va faire revenir ces colonies dans le modèle politique global de l'Empire britannique. Donc ça veut dire introduire une assemblée, etc. Et en fait, 1774, la couronne revient complètement sur cette idée et va mettre en avant l'exceptionnalisme de la province du Québec. Donc politiquement, il n'y aura pas d'assemblée et surtout religieusement, on va établir l'Église catholique comme Église établie et officielle de cette province. On va confirmer le régime seigneurial, c'est-à-dire un régime de propriété terrienne très différent de celui des colonies américaines. Donc il y a plein de choses qui... Il y a vraiment ce renversement complet des promesses qui ont été faites en 1763. Et c'est ça que les Américains ne vont pas supporter. Et avec raison, parce que ce qu'ils voient, c'est que se dessine un modèle de colonie et ils ont peur que ce soit ce modèle qui leur soit imposé, donc sans assemblée, etc., etc. Et donc, c'est une des raisons. Alors, c'est pas la seule, mais non. C'est une des raisons de la Révolution américaine. Et c'est assez intéressant de voir finalement comment, d'une certaine manière, la guerre de 7 ans avec la victoire britannique va petit à petit exacerber les tensions qui mènent à la Révolution américaine. Donc il y a un lien très fort en fait entre ces deux conflits, la guerre de 7 ans et la guerre d'indépendance.
Ah oui, parce qu'on parle de guerre européenne avec la guerre de 7 ans, mais c'est une guerre déjà mondiale avec la précision. Quand le mot américain est utilisé, c'est pour désigner les habitants des 13 colonies.
Voilà.
Que tout le monde est en Amérique, c'est un continent. Mais voilà, c'est juste pour rendre les choses claires. Moi, ce que j'entends ici, c'est que tout le monde est sous domination britannique, pour simplifier. Mais en fait, la nature de ces colonies sont vraiment, vraiment profondément différentes. On peut même aller plus loin. Peut-être que dans la composition sociale, il y a des différences. Comment on peut percevoir les écarts entre la colonie britannique ou anglaise du Canada et puis ces 13 colonies?
Alors déjà, la colonie anglaise du Canada, comme vous dites, de la province de Québec, c'est une colonie qui est peu peuplée. Il n'y a que 70 000 habitants dans l'ensemble de cette colonie, alors que c'est un territoire qui est immense, qui va quand même du golfe du Saint-Laurent jusqu'à la région des Grands Lacs. Et c'est une colonie où les habitants ont peu de mobilité. Ils sont plutôt ruraux. Alors que c'est vrai qu'on a quand même des villes, Boston, Philadelphie, qui sont plutôt des villes, culturelles, qui sont des villes qui accueillent beaucoup de migrants au XVIIIe siècle, qui sont plutôt culturellement intéressantes, avec des bibliothèques, etc. Alors que c'est une province, la province de Québec, une colonie qui est beaucoup plus fermée à ces mouvements, à la fois de population et tout ce qu'elles amènent, c'est-à-dire des mouvements d'idées, des brassages, etc. Et c'est une population qui, comme l'a dit Laurence, est plutôt sous l'influence du clergé catholique, puisqu'il faut savoir qu'en 1760, les élites sont parties. On parle de décapitation des élites, c'est-à-dire que les officiers, les administrateurs, tous les gens qui pouvaient, en fait, qui auraient pu servir d'intermédiaire entre ces populations francophones et le régime britannique, ne sont plus là. Et donc, cette population compte beaucoup sur son clergé pour à la fois la représenter auprès du régime britannique et aussi parce que elle les représente d'une certaine façon dans tout ce qui est revendication et négociation politique.
Oui, et le clergé aussi joue un rôle très important pour maintenir une culture francophone et catholique. Et c'est pour ça, même dans les années qui ont suivi, je dirais jusqu'aux années 1960, donc très récemment, l'Église catholique du Québec a servi vraiment a servi à maintenir la langue française et la culture française du Québec face au rouleau compresseur d'une population anglophone dans tout le reste du Canada et des États-Unis.
Et protestante, cette population. Et protestante aussi. Oui.
Donc ça effectivement, ce rôle crucial de l'Église catholique se met en place après la conquête de 1763.
Et les Anglais le comprennent très bien et le comprennent très vite. Et le gouverneur Guy Carleton, qui arrive en 1768, va justement beaucoup jouer là-dessus. Va se dire, et si j'essayais de m'accommoder un petit peu avec cette Église, et est-ce que, je pourrais en contrepartie peut-être obtenir davantage de la population. Et effectivement, c'est le problème de l'acte de Québec, puisque l'acte de Québec donne énormément de pouvoir à l'Église. Et de fait, effectivement, les Canadiens ne voient pas forcément beaucoup de raisons de se révolter au moment où l'Église se dit, les représentants de l'Église, notamment l'évêque de Québec, appellent à ne pas rejoindre cette révolution.
Laurence Cross.
Oui, d'autant plus qu'ils sont confrontés à une population américaine où, alors évidemment, dans certaines des colonies américaines de la côte, il y a des colonies catholiques, mais en fait, il y a quand même un antipapisme assez fort des colonies.
Même très fort.
Oui, même très fort.
Puisqu'il a été interdit, le catholicisme, dans certaines colonies, comme le Massachusetts, par exemple. Sous peine de mort, les gens n'avaient pas le droit de pratiquer le catholicisme.
Oui, après, il y a le Maryland qui est plus qui est catholique, etc. Mais effectivement, il y a un antipapisme fort. Et évidemment, les Québécois, ils le savent très très bien. Et si je peux aussi revenir un petit peu en arrière, enfin sur, en arrière, beaucoup en arrière, hein, parce qu'il y a avant la Révolution américaine, avant 1775, hein, il y a quand même 150 ans avant de cohabitation de deux types de colonies, les françaises et les anglaises. Et pendant ces 150 ans, il y a quatre conflits. Il y a quatre conflits entre la France et l'Angleterre qui se répercutent toujours dans les colonies. Donc en fait, pour les Québécois, pour les Canadiens français, hein, les Américains, les colons américains, qu'ils appellent souvent d'ailleurs les Bostonais, ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis avec qui ils se sont battus pendant 150 ans, avec des conflits qui sont vraiment sanglants, hein, des conflits presque des conflits d'épuration ethnique, avec des raids sur les villages des frontières, avec des gens qui sont capturés, qui sont amenés en esclavage, avec beaucoup d'alliances aussi avec les peuples autochtones. Donc il y a une histoire assez sanglante et énormément de ressentiments des deux côtés. Et je pense par exemple à la grande histoire de Francis Parkman qui écrit, bon c'est un historien de Boston qui à la fin, vers les années 1860, écrit une histoire en 15 volumes de la rivalité franco-américaine. Donc c'est un siècle après et quand on lit Parkman, il y a un ressentiment contre les Canadiens français vraiment très très fort et c'est un siècle plus tard.
Ah oui, parce qu'en 1774, quand le Congrès continental, donc ce sont ces 13 colonies qui se sont constituées sous forme d'assemblée, envoie une lettre à Québec pour dire ben, les petits copains rejoignez-nous. Là à Québec, on dit non, faut écouter Adeline Vasquez Parra et Laurence Crosse. Depuis un moment, elle nous explique que les tensions et les ressentis sont vifs depuis très longtemps. N'empêche que ben, quand on n'y arrive pas, parce qu'en 1774, le Canada dit bah non, on va pas vous rejoindre dans ce mouvement-là, restent les armes.
George Washington n'a jamais pu compter sur une force organisée. Et Washington disait au Congrès. Si nous pouvions disposer d'une armée unique, votre affaire serait vite résolue. Mais il y a autant d'armées en Amérique qu'il y a de territoires. Elles payent diversement leurs hommes, ce qui suscite des jalousies dans la troupe. Ceux de la Nouvelle-Angleterre sont des bourgeois, des privilégiés, à côté des malheureux miliciens de la Caroline. Et puis ces miliciens s'engagent pour peu de temps, jamais plus de 3 mois. Au bout du temps prévu, les soldats s'en vont immédiatement sur le champ. Sous aucun prétexte, on ne peut les retenir. Il arrive que Washington ait à recruter des hommes en pleine bataille. Il n'en a plus, ils sont partis. Il en faut d'autres. Richard Montgomery décide, par exemple, de donner l'assaut à la fin de décembre 1775 à la ville de Québec, un assaut tout à fait désastreux. Pourquoi ? Parce que le 31 décembre à minuit, il sait que l'engagement de ses hommes prend fin. Donc, il faut qu'il se dépêche. Il sait que son armée va se débander tout de suite.
Pierre Michalici qui s'exprimait à propos des armées de Washington. Nous sommes en 1775 et donc la volonté de s'imposer au Canada par les armes, c'est-à-dire qu'on a une guerre ici entre les États-Unis naissants et le Canada, le Québec. Alors Laurence Crosse, que se passe-t-il à ce moment-là ?
Je pense que en fait, il y a tout un travail de communication autour de cette invasion parce que George Washington en particulier la présente toujours comme une intervention de libération. En fait, on va pas envahir la province du Québec, on va libérer la province du Québec du joug britannique. Donc il y a quand même il y a tout un travail de framing là hein, que et Washington était très conscient de la nécessité de gagner la population canadienne-française et avait donné des ordres, en particulier à ses armées, pour vraiment respecter les églises, pour surtout ne pas confisquer de nourriture, etc. Enfin, de se comporter vraiment très bien comme des bons petits élèves. Le problème, c'est qu'il a une armée qui a pas d'argent, qui a pas rien à manger, car ils ont pas de vêtements, etc. Et bon, ça va partir tout de suite.
Et ils vont très mal se comporter, notamment à Montréal quand ils vont envahir. Quand Richard Montgomery va envahir Montréal, les troupes vont mal se comporter. Elles vont piller dans la ville et elles vont également ne pas s'acquitter, enfin, de leurs dettes auprès de certains commerçants et elles vont laisser une image vraiment désastreuse auprès des populations. Mais malgré cela, il va quand même y avoir deux régiments canadiens qui vont être mobilisés et qui vont rejoindre les troupes du Congrès continental. Mais ces deux régiments sont des régiments qui sont commandés par en fait des personnes qui sont nées en Nouvelle-Angleterre et au Maryland. Donc ce sont des Moses Hazen et James Livingston. Donc en fait ce sont des miliciens qui quelque part connaissent déjà bien ces populations, connaissent bien les 13 colonies et leurs revendications. Et on dit aussi que dans leur régiment, il n'y avait pas que des Canadiens français. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas non plus... voilà.
En 1775, donc Washington s'attaque à Québec. Vous nous le disiez, hein, Laurence Cross, des arguments pour dire nous venons libérer ces populations du joug anglais. Quelles sont les autres motivations ? Stratégiques peut-être ?
Oui, bien sûr, du point de vue des révolutionnaires américains, il faut absolument contrôler la province du Québec, qui peut servir de base militaire au Royaume-Uni, enfin à la Grande-Bretagne, pour une contre-attaque pour mater la révolution. Et voilà, ça. En plus, là aussi, je reviens en arrière. Hein, c'est le Québec, c'est une espèce de forteresse qui a toujours servi à attaquer les colonies américaines. Hein, donc, on se retrouve dans ce scénario qui finalement est, pour les gens de l'époque, était un très 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 connu. Hein, c'est pas et quand on regarde d'ailleurs la façon dont les Américains vont attaquer la province du Québec, ils vont repasser par toutes les voies militaires qu'ils ont utilisées pendant 150 ans. Hein. Donc, pour attaquer Montréal, ils passent par le lac Champlain. Mm-hmm. Pour attaquer Québec, ils passent par le Kennebec et la rivière de la Chaudière. Donc, on suit des routes militaires bien tracées, bien connues. Voilà, c'est une espèce de remake, en fait. Hein. Et peu de temps après, parce qu'on oublie, nous, mais la guerre de 7 ans, elle s'est terminée 20 ans avant seulement. Donc, c'est
dans les mémoires et les gens sont...
Les populations sont traumatisées, en fait. Les populations ne veulent pas revoir une guerre qui se déploie dans leur colonie. Ça, c'est évident aussi. Mais je pense que Carleton fait bien également de se s'allier l'Église, de s'allier notamment cet évêque Jean-Olivier Briand, qui va... publier un mandement, c'est-à-dire qu'il va demander à toutes les paroisses de ne surtout pas rejoindre la Révolution américaine. Et comme on sait que ces populations sont proches, évidemment, de leur clergé, de leur paroisse, elles vont évidemment écouter leurs prêtres qui vont leur intimer l'ordre de ne pas rejoindre les révolutionnaires américains.
Laurence Cross.
Et il me semble d'ailleurs que ceux qui rejoignent les Américains sont excommuniés par l'Église catholique. Donc il y a les mandements de l'évêque Briand, il va faire toute une série de mandements pendant ça et qui sont lus en chair. Et donc il y a vraiment une pression très forte sur la population, sur les habitants, les gens qu'on appelle les habitants, c'est-à-dire les fermiers, pour ne pas rejoindre. Et c'est même presque étonnant que malgré cette pression extrême, il y en ait quand même quelques-uns. Bon, pas beaucoup de régiments, c'est pas énorme, mais il y en a quand même quelques-uns qui vont se joindre aux révoltés américains.
Et puis l'Église va aussi utiliser 1755, c'est-à-dire la déportation des Acadiens, ce qu'on appelle le grand dérangement, pour effrayer les populations. C'est-à-dire pour dire, attention, si vous n'écoutez pas ce que le régime britannique désire de vous, vous pouvez éventuellement, à un moment donné, être expulsé. Comme l'ont été les Acadiens.
Avec ce grand dérangement, cette marche au milieu du XVIIIe siècle qui a conduit les Acadiens vers le sud dans quelque chose qui reste aussi traumatisme dans les mémoires. Donc en 1775, quand les armées des 13 colonies, je le dis simplement, s'attaquent à la province de Québec, la résistance est énorme. C'est un échec en tout cas pour les colonies américaines.
Oui, sur le long terme, c'est très, très certainement un échec. Alors, ils réussissent quand même à prendre Montréal. Ils échouent devant Québec. Alors, pour la raison évoquée, justement, puisque Montgomery est obligé d'attaquer fin décembre en catastrophe, alors que les conditions sont vraiment catastrophiques.
Une tempête de neige,
en pleine tempête de neige. Parce que ces miliciens, les contrats s'arrêtent le 31 décembre, donc ils vont partir. Bon.
Alors, c'est dommage.
Ça se passe pas bien. Hein,
ça se passe pas bien, bien sûr. C'est quelque chose qui reste d'ailleurs aujourd'hui dans les mémoires. Adeline Vasquez-Parra, dans l'histoire du Québec des origines à nos jours que vous publiez, évidemment, on sait bien que se constituent des mémoires nationales, ce moment de 1775.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la mémoire de Montgomery va vraiment être célébrée aux États-Unis parce que Montgomery va être le martyr de la révolution américaine. Alors, non seulement il n'a pas vu cette révolution aboutir, mais en plus, il est mort de façon héroïque. Donc, il va y avoir des statues, des monuments, des poèmes qui vont être écrits en sa mémoire. Et on peut dire aussi que finalement cet épisode d'invasion américaine va être aussi utilisé ultérieurement par des historiens à la fois canadiens, britanniques et québécois pour finalement trouver une certaine relation particulière avec les États-Unis. Ça établit en fait une relation particulière avec les États-Unis. Et je pense que ce qui est intéressant finalement dans cet épisode, c'est sa nature transnationale. C'est-à-dire qu'il va servir à plusieurs mémoires et à plusieurs histoires.
En tout cas, le 31 décembre 1775, le général Richard Montgomery meurt devant Québec, 31 décembre. Un jour près, ça y est, c'était la fin des contrats. Et cette guerre est un échec pour l'armée continentale des États-Unis. Dès lors, que faire ? Écrire une nouvelle lettre.
Nous ne vous laisserons pas exposer à la fureur de vos ennemis et des nôtres. Deux bataillons ont reçu l'ordre de marcher au Canada, dont une partie est déjà en route. On lève 6 autres bataillons dans les colonies unies pour le même service, qui partiront pour votre province aussitôt qu'il sera possible. Et probablement, ils arriveront au Canada avant que les troupes du ministère, sous le général Carleton, puissent recevoir des secours. En outre, nous avons fait expédier les ordres nécessaires pour faire lever 2 bataillons chez vous. Votre assistance pour le soutien et la conservation de la liberté américaine nous causera la plus grande satisfaction. Et nous nous flattons que vous saisirez avec zèle et empressement, à l'instant favorable, de coopérer au succès d'une entreprise aussi glorieuse. Si des forces plus considérables sont requises, elles vous seront envoyées.
Thomas Beau qui disait cette troisième lettre du Congrès continental aux habitants de la province du Québec. Nous étions en janvier 1776. Ce que je voudrais saisir ici, c'est que au moment où les 13 colonies construisent leur indépendance, il y a plusieurs voies possibles entre un État unique, entre des petits États réunis dans une confédération, un système fédéral. Qu'est-ce qui est proposé ici à la province de Québec et au Canada? Est-ce qu'on leur dit, mais non, vous allez rester indépendante? Est-ce qu'on leur donne des choix? Est-ce qu'il y a une réflexion sur un avenir possible?
Mais justement, j'ai l'impression que ces lettres sont assez théoriques. Et surtout, elles utilisent un langage que les Canadiens ne comprennent pas très bien parce que c'est un langage qui est issu des Lumières. Ils font beaucoup de références à Montesquieu. Alors, je pense qu'ils croient les toucher parce que ce sont des références françaises. Mais en vérité, ces gens sont plutôt issus de l'Ancien Régime, ont en fait des mentalités d'Ancien Régime. Donc, ils ont énormément de mal à se connecter à ces références. Et ils ne voient pas vraiment, finalement, ce qu'ils leur apportent de plus par rapport aux acquis de l'acte de Québec, puisque l'acte de Québec avait rétabli, comme l'a dit Laurence, le droit civil français et avait rétabli également l'Église catholique dans son plein droit. Donc je pense qu'il y a vraiment un flou, en fait, qui vient un petit peu mettre en échec ces lettres.
Oui, une espèce de malentendu, en fait. Hein. Comme dit Adeline, les habitants, l'organisation de la province du Québec reste encore à ce moment-là vraiment une organisation de l'ancien régime français. Les Américains, en fait, s'inspirent, comme tu l'as dit, de références politiques qui sont tout à fait différentes en termes de principes de gouvernement. Et aussi, les lettres du Congrès, comme tu le dis, restent très théoriques, ne proposent rien de clair à part de dire « on va vous libérer, voilà, on va préserver votre liberté ». Mais bon, je pense que pour les habitants, c'est quoi cette liberté dont on nous parle ? Ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde, me semble-t-il. La seule chose un peu pratique qu'on leur propose, c'est d'envoyer des représentants au Congrès continental. Oui. Mais voilà, ça va pas plus loin. Bon, après, même au niveau du Congrès continental, à ce moment-là, il n'y a pas du tout encore de réflexion sur le type d'organisation politique des futurs États-Unis. Pour l'instant, on en est à organiser la révolte et la guerre éventuellement. On n'a pas du tout réfléchi à est-ce que ça va être une fédération, une confédération. Là, on n'en est pas là. C'est une réflexion qui aura lieu après la guerre d'indépendance.
Et puis le Canada est un monde divers parce que aujourd'hui, en parlant du Canada, nous projetons la carte mentale que nous avons avec les pays, mais il y a toutes ces différences, même si pour le Canada, il y a le Québec, il y a l'ailleurs, il y a le Canada à l'ouest qui est encore des territoires à découvrir, à conquérir. Ici, dire Canada en 1775, en 1776 n'a pas grand sens. Il faut détailler les choses.
C'est quand même un territoire historique, c'est-à-dire qu'il a été nommé Canada par les Français pendant quasiment deux siècles. Donc en fait, les habitants se réfèrent à eux-mêmes en tant que Canadiens. C'est quand même une identité qui existe et qui est une identité qui est pertinente pour eux, en fait.
Il n'y a pas encore les tensions entre les communautés issues d'un monde anglo-saxon et celles issues d'un monde francophone.
Le problème, c'est qu'elles sont petites, ces communautés issues du monde anglo-saxon. Ce sont quelques marchands écossais. Vous avez également tout ce qui est personnel militaire, mais vous n'avez pas énormément en fait d'anglais, hein, si je puis dire, qui sont vraiment présents en masse dans cette colonie. Mais par contre, la Révolution américaine va amener des loyalistes, c'est-à-dire des gens qui sont fidèles à la monarchie britannique et qui ne veulent pas de cette révolution et qui vont changer la démographie de cette province de Québec et qui finalement aussi vont changer la nature de cette province de Québec, puisque eux sont anglophones et eux sont aussi issus des 13 colonies.
Ah oui, toutes les élites des 13 colonies qui, bien sûr, veulent rester fidèles à la couronne britannique parce qu'elles en tirent toute leur carrière, quittent les 13 colonies et se rendent au Canada. Oui, je vois bien, en fait, l'effet démographique que ça peut avoir.
Oui, pour compléter, ou en fait, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le Canada, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est créé par la Révolution américaine. Parce qu'avant, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle officiellement la province du Québec, donc ce qui est historiquement la colonie française canadienne qui faisait partie de la Nouvelle-France, mais avec une identité canadienne, la vallée du Saint-Laurent, grosso modo, autour de ces, de Montréal, de Québec, qui va un peu jusqu'à l'Acadie, qui, elle, a une identité un peu différente. Mais le Canada historique avec les Canadiens français qui, au moment de la Révolution américaine, mais même au moment de la guerre de 7 ans, 20 ans avant, ont déjà une identité qui s'est constituée, qui est distincte de l'identité française. Il y a toute une série de choses qui sont différentes. Donc ça, c'est ce qu'on a avant la Révolution américaine. Et après la Révolution américaine, on va se retrouver avec 4 colonies britanniques. Donc le Haut-Canada.
Ça, c'est un peu après,
c'est un peu après 1791. Mais quand même 4, oui, 1791. Et en fait, parce que justement, l'afflux de loyalistes, qui arrivent des États-Unis, va faire que la couronne britannique va créer de nouvelles colonies pour les accueillir. Et ce sont les 4 colonies qui vont être créées à ce moment-là, qui vont, un siècle plus tard, se fédérer pour former la base du Canada actuel. Donc la Révolution américaine crée deux nouveaux pays, les États-Unis et le Canada.
Et c'est important à le souligner. D'ailleurs, Laurence Cross, vous dirigez la revue Études canadiennes, parce que cette revue interdisciplinaire des études canadiennes en France s'est montrée que le moment de la Révolution américaine, qui a tellement marqué notre histoire, c'est aussi pour le Canada ce moment de bascule où il y a l'affirmation d'être différent des autres. Et c'est important de regarder cette histoire sur le temps long. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire États-Unis-Canada. Histoire de troubles de voisinage. Oh, we share a common border with a country that you know. Just take a look at your atlas, it's the one that's down below. There's 50 states in the Union and something should be done to forget the war of 1812 and make it 51. There'll be color television, social security, racial segregation and the Burt Society. You can take the Fifth Amendment, you can vote for LBJ. You can even burn your draft card when we're Canada, USA. Now some folks think we're English, which isn't true at all. And some think we're a colony that's run by Charles de Gaulle. But we're looking up to greater things upon that glorious day when the capital of our little state is Ottawa, CA. There'll be color television, social security, racial segregation and the Burt Society. You can cheer for Jimmy Hoffa, you can join the clan today. You can even be a commie when we're Canada, USA. There's a bunch of stripes and 50 stars upon the Yankee flag. There's gonna have to be 51 when Canada's in the bag. But when we see the flag unfurled, we'll know we've won the fight. We'll be just before Connecticut in the third row from the right. There'll be color television, social security,
racial segregation and the Birch Society. You can take the Fifth Amendment, you can vote for LBJ. You can even burn your draft card when we're Canada, USA.
Tiens, une fausse note. C'est le groupe The Brothers in Law, un groupe canadien, ici dans le cours de l'histoire, avec à la technique Grégory Wallon et à la réalisation de l'émission Thomas Beau, États-Unis-Canada, histoire de troubles de voisinage. Cette guerre d'indépendance des États-Unis commence en 1775, 1776, la déclaration d'indépendance. Puis ça dure, hein, jusqu'en 1783, quand enfin le Royaume-Uni reconnaît cette indépendance. Dites-nous, pendant cette guerre d'indépendance des États-Unis, que se passe-t-il avec le Canada? Est-ce qu'il y a une participation au conflit, au combat, ou ça reste complètement en marge?
Non. La seule chose, c'est que par contre, le Canada sert un peu de base militaire, où les troupes britanniques vont transiter et par lesquelles elles vont attaquer. C'est un certain point stratégique au nord des colonies rebelles. Donc ça sert de réservoir, de place forte militaire pour le Royaume-Uni.
Et puis on est à un moment où la notion de frontière n'est pas aussi évidente que celle d'aujourd'hui. La frontière entre le Canada, qui n'est pas indépendant à ce moment-là, et les États-Unis qui ont proclamé leur indépendance, c'est pas grand-chose. Alors dans cette histoire de conflit, il faut attendre encore quelques années, 1812, pour revoir des tensions très vives. Pourquoi en 1812? Que se passe-t-il à ce moment-là?
Alors, il y a des motivations qui sont plus européennes au conflit de 1812.
Les guerres napoléoniennes.
Voilà, notamment. Les guerres napoléoniennes. Le fait que la Grande-Bretagne avait établi un blocus autour de la France, que les Américains ne pouvaient pas commercer avec la France comme ils le voulaient, donc il y avait cette tension. Le fait que la marine britannique avait besoin de recruter des hommes et que une des façons qu'ils utilisaient, c'est d'aller recruter de force des marins américains sur les bateaux. Donc ça, c'est encore un problème. Mais c'est très lié aux guerres napoléoniennes, ça, effectivement. Donc ça, c'est plutôt le contexte géostratégique européen mondial.
Et puis après le traité de Paris de 1783, en fait, on n'a pas vraiment résolu le problème de la frontière. Voilà. En fait, on a une frontière, mais elle est quand même pas très très stabilisée. Et puis les Anglais n'ont toujours pas évacué leurs forts. Il faut attendre 1795, le traité de Jay, pour que vraiment les forts anglais, qui sont les anciens forts français, en fait, soient complètement évacués. Donc il y a encore ce problème de la frontière qui nécessite énormément, alors à la fois de stratégie militaire, mais aussi de diplomatie avec les nations autochtones, puisque ce sont surtout des nations autochtones qui occupent ces territoires. Ce sont des territoires essentiels pour progresser à l'ouest, pour les Américains, donc c'est vraiment des territoires qu'ils veulent dans leur entièreté, et ils vont commencer finalement à des pourparlers diplomatiques avec ces nations, et ces nations en fait sont des nations qui sont extrêmement pro-britanniques.
Laurence Cos.
Oui, donc là géographiquement on parle de ce qu'on appelle le territoire du Nord-Ouest, c'est-à-dire en fait le territoire qui est juste au sud des Grands Lacs. Donc encore, on est encore à l'est du Mississippi, et finalement c'est le territoire qui est destiné à être occupé par les Américains, avec une forte pression démographique sur les colonies, les États de la côte, et donc plein de gens qui essayent, voilà. Mais comme dit Adeline, ce sont des territoires qui étaient anciennement des territoires français, de l'Empire français, récupérés par les Britanniques, et qui sont occupés par énormément de nations autochtones. Alors celles qui étaient déjà installées, mais aussi d'autres qui ont été repoussées de la côte est, donc ils sont retrouvés là, et qui sont très pro-britanniques parce qu'ils se méfient énormément des Américains. C'est normal, beaucoup d'entre eux ont déjà été éjectés de leur territoire traditionnel, et ils n'ont aucune envie de devenir... Et évidemment, les Britanniques qui ont encore des forts, qui sont d'ailleurs les anciens forts français, mais maintenant récupérés par les Britanniques, et se font un plaisir de rester là et d'essayer de soutenir les nations autochtones dans leur résistance contre l'avancée des Américains.
Et donc autochtones vont être essentielles pour gagner cette guerre de 1812. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette guerre va être si essentielle pour l'identité canadienne, parce que c'est une guerre qui va en fait mobiliser à la fois des autochtones, des Anglais, des Canadiens d'origine française, et des femmes aussi. C'est ça qui est intéressant et cette guerre va être utilisée par beaucoup de politiciens, je pense à Stephen Harper notamment, qui pour justement démontrer l'existence d'une vraie identité nationale canadienne entre guillemets, va beaucoup appuyer ce moment comme un moment fondateur de du Canada.
Stephen Harper, qui est le premier ministre du Canada, mais récemment, c'est dans les années 2000 au début, enfin 2006-2015.
Ouais, c'est ça, 2006.
Donc c'est très récent, avec l'évocation sans cesse du passé. On entend bien que ces histoires-là sont des histoires qui relève du processus, en fait. On a des moments forts, 1775, 1812, mais pour le reste, on voit une évolution. Et par exemple, en 1812, Adeline Vasquez-Parra, vous nous disiez qu'il y a une union des différentes populations qui, au Canada, résistent.
Alors qu'on romance aussi. On romance aussi cette
on la romance un peu, mais
cette alliance.
Est-ce que ça a un effet sur l'organisation même du territoire? Parce que dans la construction d'un État, il y a ça aussi, la mise en place, je ne sais pas moi, de structures, d'armées, de réseaux. Cette guerre de 1812, ou ces tensions de 1812, ça favorise cela?
Alors, il y a aussi une autre problématique, c'est qu'en 1812, donc, il y a deux colonies, le Haut et le Bas Canada, et ces deux colonies commencent à connaître un vrai retournement en termes d'idées, parce que vous avez une petite élite, notamment au Bas-Canada, qui est de plus en plus acquise aux révolutions atlantiques, aux idées des révolutions atlantiques, alors même si ça arrive un peu tardivement, mais elle rejoignent un peu tardivement ces idées de la révolution américaine qu'elles n'ont pas voulu rejoindre en 1776. Donc il y a aussi cette donne politique qui est un petit peu différente au moment où le Bas-Canada émerge sur la scène continentale.
Et puis avec une victoire quand même, en 1813, qui là aussi demeure dans les mémoires.
La bataille de la Châteauguay, qui est vraiment la victoire canadienne.
Fêtée aujourd'hui encore. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans la construction d'un récit national, Laurence Cross.
Mais alors justement, ce qui est intéressant en termes de commémoration, donc on parlait de Stephen Harper, c'est en fait le premier ministre qui était au pouvoir au moment du 200e anniversaire. Donc il y a eu pas mal de célébrations en 2012 autour de cette guerre de 1812. Et ce qui est mis en avant, bien sûr, c'est l'union des différents peuples du Canada. Et la mise en avant des trois héros, donc le chef Shawnee Tecumseh qui meurt au combat contre les Américains, le général Brock qui dirigeait la milice du Haut-Canada, donc beaucoup plus d'origine américano-anglaise, les loyalistes. Lui-même était un loyaliste, Et donc Charles de Salaberry, qui était le commandant de la milice du Bas-Canada, et donc qui est le seul qui ait survécu. Les deux autres sont morts au combat. Et donc, ces trois chefs emblématiques, finalement, de l'union des peuples canadiens sont mis en avant dans les commémorations. Mais oui, effectivement, c'est intéressant ce que tu disais sur le fait que c'est une espèce de période de transition, parce que dans les années ensuite, les années qui vont suivre, 1820, 1830, on va voir monter dans les provinces. Alors pas seulement le Haut-Canada, le Bas-Canada, mais aussi le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Monter une aspiration à plus d'autonomie et plus de gouvernement responsable. Donc ça va être petit à petit, ça monte. Et c'est vrai que ça arrive beaucoup plus tard qu'au niveau des colonies américaines, mais ça arrive.
Ça arrive, et en 1838, justement, de nouvelles tensions.
Il est évident que la lutte qui a maintenant lieu en Canada a aujourd'hui les sympathies du peuple américain. Mais cette lutte était inattendue et ne peut réussir. Aux États-Unis, on paraît désirer bien ardemment l'indépendance de toutes les parties de ce continent de tout pouvoir européen. Quoi qu'il faille que cet événement arrive tôt ou tard, car il est dans la nature des choses, il est absurde de penser que le gouvernement des États-Unis s'engagera dans une guerre volontairement pour procurer au Canada leur indépendance. Il est néanmoins de l'intérêt de l'Angleterre de préparer ses colonies du Nord à l'indépendance, en leur donnant une forme de gouvernement approchant, autant que possible, des principes qui font la base de la République américaine.
Nous étions ici le 1er janvier 1838, quand Louis-Hippolyte Lafontaine, juriste canadien, analyse la situation de son pays, parce que ici c'est passionnant de voir combien on a des personnes en écho à ce qui se passe ailleurs dans le monde. On n'arrête pas de le dire, aux idées européennes, à ce qui se passe aux États-Unis. C'est une lecture de Nicolas Berger dans Le cours de l'histoire. Pourquoi 1838 de nouvelles tensions ?
Alors 1837-1838 sont des rébellions qui prennent place dans une montée des tensions entre un groupe politique qui domine la Chambre d'Assemblée au Bas-Canada. Alors il faut savoir que depuis 1791, depuis la constitutionnelle, finalement le Canada a réussi à obtenir une Chambre d'Assemblée, mais la Chambre d'Assemblée est déconnectée du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement qui est composé du gouverneur et de ses deux conseils sont vraiment font les lois en quelque sorte, puisque ils ont un droit de veto, ils peuvent invalider les lois. Donc la Chambre d'Assemblée n'a pas énormément de pouvoir et un groupe se constitue autour d'une figure, Louis-Joseph Papineau, qui va réclamer un gouvernement responsable, donc un gouvernement qui est responsable devant la Chambre d'Assemblée dont ses membres sont issus et qui obtient la confiance également de cette assemblée. Or, ce n'est pas ce qu'ils ont. Donc, ils réclament davantage, finalement, de démocratie, hein, une forme de souveraineté populaire. Et ils demandent aussi à ce que le budget soit également confié à cette assemblée. Évidemment, les Britanniques n'en veulent pas. Et Londres lui refuse ses demandes. Et des tensions armées vont en fait monter et c'est ce qu'on va appeler les rébellions patriotes. Et ce qui est intéressant, c'est que Louis-Joseph Papineau va beaucoup s'inspirer de la Révolution américaine dans les tactiques qu'il va employer pour justement mettre en place ces rébellions, puisqu'il va mettre en place un grand boycott des produits britanniques. Il va mettre en place des assemblées populaires. Donc, il va vraiment essayer d'utiliser toutes ces tactiques pour convaincre le gouvernement britannique de leur octroyer un gouvernement responsable.
Et là, c'est pour les États-Unis éventuellement l'occasion de prendre place de ce côté-là avec des aspirations similaires. On peut concevoir comme ça ce moment 1838.
On peut tout à fait le concevoir comme cela. Et en plus, au fur et à mesure des luttes armées, donc il va y avoir de vraies batailles, hein, notamment dans le village de Saint-Eustache, les chefs patriotes vont partir en exil. Ils vont choisir les États-Unis. Et on pourrait penser qu'à ce moment-là, les États-Unis effectivement prennent pas parti, fait et cause pour la cause patriote, relaient les demandes de Louis-Joseph Papineau et au Congrès, par exemple. Mais en fait, rien de tout cela ne va se produire. Au contraire, l'administration américaine de Martin Van Buren va refuser de cautionner ces luttes et va, en vérité, les mettre en échec en ne les soutenant pas.
Laurence Cross.
Alors, Adeline a beaucoup parlé là du Bas-Canada, donc ce qu'on appelle le Québec aujourd'hui. Mais en fait, c'est un mouvement qui est présent dans les autres colonies britanniques, donc les autres colonies de l'Amérique, ce qu'on appelle à l'époque l'Amérique du Nord britannique. On a un mouvement similaire dans la province du Haut-Canada, donc avec un parti également qui demande plus de démocratie, un gouvernement responsable, etc. Donc avec William Lyon Mackenzie. Et on a également en Nouvelle-Écosse, avec Joseph Howe, qui est à la fois un journaliste et un parlementaire, exactement le même mouvement de demande d'un gouvernement. Donc il y a quand même une similarité là dans toutes les colonies pendant ces années 1820-1830. Comme tu l'as dit, on pourrait attendre que les États-Unis se mobilisent pour aider le Canada, mais voilà, ils sont dans une période où ils n'ont pas envie de déclencher un nouveau conflit avec le Royaume-Uni, donc ils vont pas. Alors ils vont quand même accueillir effectivement Papineau et aussi Mackenzie hein, après les rébellions armées de donc d'abord celle du Bas-Canada, suivie quelques mois après d'une rébellion armée du Haut-Canada.
Ce qu'on appellerait l'Ontario en fait.
Voilà l'Ontario. D'accord. Voilà. Et alors, en fait, finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que la seule province où il n'y a pas de rébellion armée, c'est la Nouvelle-Écosse. Mais au final, c'est la Nouvelle-Écosse qui sera la première colonie à obtenir le gouvernement responsable à la fin des années 1840. Donc, ils sont passés par une voie qui est beaucoup plus une voie légale, parlementaire, etc., de pression constante sur la couronne britannique et le Foreign Office. Et ils finissent par obtenir ce qu'ils veulent, sans passer par des luttes armées. Bon, dans les mois qui suivent, hein, le gouvernement responsable est aussi octroyé à toutes les autres provinces. Donc, voilà. C'est...
Et dans les années qui suivent, bien sûr, on sent que se développent ces réflexions. Que faire du Canada ? Comment construire le Canada ? Parce que j'entends bien ces tensions internes avec l'idée d'une confédération. Et oui, pourquoi pas une confédération ?
En ce moment, nous travaillons à notre tour à fonder ici une grande confédération. Mais notre objet n'est point de le faire par la création d'institutions démocratiques. Non. C'est plutôt d'aider l'élément monarchique à prendre parmi nous de plus profondes racines. À l'égard de la politique, il est manifeste que nous avons des intérêts généraux qui peuvent être confiés à un gouvernement général de toute l'Amérique britannique du Nord. Comme bas-canadien, je reconnais que l'union du Haut et du Bas-Canada a fait beaucoup de bien. Je l'avoue et je l'ai dit plusieurs fois, que cette union a opéré des merveilles pour la prospérité des deux provinces. Je ne suis pas de ceux qui voudraient voir le Haut et le Bas-Canada séparés, de manière qu'ils eussent tous deux le droit de régler leurs tarifs indépendamment l'un de l'autre. Nous devons apprécier les événements dans leur vrai jour. L'homme d'État canadien ne doit-il pas employer ses talents et son énergie à résoudre cette question de représentation qui menace d'amener une rupture entre le Haut et le Bas-Canada ? Il faut donc que la confédération de toutes les provinces britanniques s'effectue, sans quoi nous tombons dans la confédération américaine.
En 1864, Georges-Étienne Cartier, premier ministre du Canada Est, appelle à une confédération. C'est une lecture ici de Paul-Émile Desmaires avec la volonté d'une confédération. Mais je dis 1864, aux États-Unis, c'est pas mieux en ce moment-là, c'est la guerre de sécession. Eux aussi se divisent. Est-ce qu'il y a un effet là où, au Canada, on regarde ce qui se passe aux États-Unis en train de se déchirer entre le Nord et le Sud pour dire, bon ben, allez, c'est peut-être à nous maintenant de régler les problèmes ou en tout cas de les anticiper. Alors, on commence par vous, Laurence Cross.
Il y a un lien absolument vraiment et très étroit entre la guerre de sécession et la Confédération canadienne, qui est simplement le fait que pendant la guerre de sécession, le Royaume-Uni, qui était censé être neutre, a néanmoins permis un certain nombre, voilà, il y a la construction de navires corsaires pour le Sud, etc. Donc, au moment de la guerre de sécession, même pendant la guerre, il y a énormément de ressentiment de la part du Nord vis-à-vis de la Grande-Bretagne, avec une espèce de promesse, bon, une fois que la guerre va être finie, on va régler nos comptes, là, avec le Royaume-Uni. Et finalement, régler les comptes avec le Royaume-Uni, ça veut dire qu'on va s'occuper du Canada, hein, parce que c'est le territoire britannique le plus facilement qu'on peut attaquer à portée de main. Alors évidemment, les Canadiens savent ça. Ils se disent, oulala, on va se retrouver après la guerre de sécession avec une armée du Nord bien entraînée et probablement encore une menace d'invasion, une nouvelle invasion. Parce que la dernière, c'était 1812, mais bon. Et comment est-ce qu'on fait alors pour s'en débrouiller ? Et une des raisons du coup de la Confédération, bon, c'est pas la seule, c'est aussi finalement l'idée, l'union fait la force. Si on se regroupe, on sera beaucoup plus fort pour se défendre contre une potentielle agression des États-Unis. Donc ça, c'est une motivation très importante.
La Confédération canadienne, c'est 1867, c'est-à-dire 2 ans après la fin de la guerre de sécession, qui est assez sécessure. Dites-nous, Aline Vasquez-Parra, vraiment, dans cette histoire-là, est-ce que l'on peut dire qu'à partir de 1867, globalement, les deux nations sont définies, que les frontières, d'ailleurs, sont beaucoup plus clairement définies ? Désormais, les tensions, puisqu'elles existent toujours, se portent sur d'autres aspects. Il y a une rivalité constante, une méfiance, une amitié aussi, mais ce n'est plus les mêmes rivalités qu'au début du 19e siècle.
Non, et puis il y a de nouvelles donnes. Par exemple, les Red Fenians, ce sont des migrants irlandais, des républicains irlandais qui, avec les armes, font des incursions au Canada, et les Canadiens en ont très peur. Donc, ils utilisent la frontière quelque part. Donc, la frontière est mobilisée colonisée par d'autres groupes que simplement les Américains ou les Canadiens ou les populations autochtones. Et ça, ça va aller un peu crescendo. Et je pense que c'est un peu le problème de cette frontière à partir de ce moment-là, et surtout à partir de 1867, parce que cette frontière aussi s'établit en raison de ces problématiques de groupes armés qui finalement rentrent au Canada sans trop de problèmes. Il faut aussi rappeler que pendant la guerre de sécession, les Canadiens ont peur des soldats démobilisés. Il y en a notamment John Harrison Surratt, qui est un soldat qui a été impliqué dans l'assassinat d'Abraham Lincoln, a trouvé refuge à Montréal. Donc il y a aussi cette idée de Canada comme refuge potentiel pour ces groupes armés, et je pense que ça contribue beaucoup à l'émergence de la Confédération.
Avec ici, alors on se pose quand même cette question en lien avec l'actualité. Est-ce qu'à un moment ou un autre, à partir de 1867, aux États-Unis, on voit se développer l'idée que le Canada pourrait être un État des États-Unis dans cette longue histoire? Est-ce que c'est quelque chose de complètement marginal, ou est-ce que c'est une revendication qu'on peut trouver ça et là chez des politiques?
Je pense non. Alors, on peut trouver cette revendication, mais je dirais avant la Confédération, avant 1867. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait eu un président américain après 1867 qui ait évoqué une union politique. Bon, bien sûr, jusqu'à Donald Trump. Par contre, il y a quand même malgré tout une peur du Canada d'une intégration politique, alors qui serait pas forcément une annexion, mais plutôt une intégration politique qui va se faire par le poids économique, l'intégration économique du pays. Donc il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis du libre-échange au Canada pendant très longtemps à cause de ça. Et puis aussi à partir des années 1820, il y a l'espèce de toute puissance de la culture de masse américaine qui fait que il y a une espèce d'intégration de culture aussi. Donc c'est pas tellement qu'il y a des problèmes, des menaces réelles d'annexion, mais une espèce de processus par lequel les États-Unis avalent un peu le Canada comme ça.
Alors une toute petite parenthèse sur le Québec en tant que tel, parce que le Québec est un peu particulier. C'est vrai que pour revenir à la figure de Louis-Joseph Papineau et ses patriotes, dont certains étaient républicains, et c'est vrai que lui c'était cette grande, c'était d'ailleurs sa tendance politique. En fait, ces gens vont prôner l'annexion aux États-Unis. Donc le mouvement annexionniste naît aussi dans le mouvement patriote bas canadien qui préfère les institutions républicaines à une sorte d'accommodement, de négociation avec le régime britannique. Donc il ne faut pas oublier cette donne-là aussi, c'est que le Québec a toujours eu une culture politique un peu différente du reste de la Confédération, et notamment une relation un peu différente aux États-Unis.
C'est-à-dire qu'il y aurait l'idée, la potentialité que le Québec devienne un État des États-Unis et non pas l'ensemble du Canada. Mais là, on est dans des positionnements, on l'entend bien, en marge de l'univers politique. Bah, enfin, ça existe quand même.
Enfin, en marge, c'était pas si en marge que ça, parce que le mouvement annexionniste a quand même été relativement suivi, parce que Papineau était quand même quelqu'un qui était très respecté. Mais je pense que dans les années 80, je sais pas si Laurence peut me confirmer, mais dans les années 80 ou 90, il y a eu un parti annexionniste au Québec.
1800 ou 1900?
Non, 1900.
1980. Récemment?
Récemment, oui.
Alors, il y a dans les années 1890, il y a un mouvement annexionniste, mais Québec et autour de Goldwyn Smith, qui fait son manifeste annexionniste.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un retour de cet annexionnisme après?
Non, parce qu'après l'élection de 1891, ça disparaît.
Ça disparaît, et puis ces Canadiens ont maintenant cette certitude d'eux-mêmes par cette longue histoire, et j'entends bien ici que ça remonte bien avant la guerre d'indépendance américaine. Merci vivement à toutes les deux, Laurence Cross. On va aller lire les études canadiennes, cette revue interdisciplinaire.
Ah oui, je vous encourage.
Voilà. Et Adeline Pascal-Sbarra, je renvoie à votre Histoire du Québec des origines à nos jours. C'est publié chez Talendier. Merci vivement à toutes les deux d'être venues dans le cours de l'histoire. Prochaine épisode, États-Unis-Mexique, une frontière dans tous ces États.
I wish I was on stormy sun
away Santiago.
I'd build a ship of 1,000 ton
all across the plains of Mexico.
Oh.
Ben voilà, c'est ça, ils iront jusqu'à Mexico. Hein. C'est le cabestan qui s'empare ici d'un fameux trois-mâts dans le cours de l'histoire. Une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayou Nguizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.